allons ouvrir la parole de Dieu et voir quelques vérités extrêmement importantes pour chaque chrétien, concernant les temps dans lesquels nous vivons. Les temps dans lesquels nous vivons sont extrêmement sérieux et nous devons réaliser tout ce que Dieu veut nous dire dans ces temps de la fin. Car nous sommes véritablement dans les temps de la fin, n'est-ce pas? Si nous ne le réalisons pas, alors c'est que nous sommes complètement à côté de la course. C'est que nous dormons complètement et que nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe au milieu de nous et dans ce monde et dans l'Église aussi. Nous allons lire dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3. Vous savez que la deuxième épître à Timothée, c'était la dernière épître que Paul a écrite. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, il y a là des pensées et des vérités extrêmement précises pour chacun d'entre nous. À partir du verset 3, nous pouvons lire ces versets. Nous allons prendre le temps de lire jusqu'au verset 17, 1 à 17. Il est important de lire la parole de Dieu. Car si la parole de Dieu n'est pas lue, n'est pas prêchée comme il le faudrait, notre foi sera faible. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend de la parole de Dieu, la parole de Christ? Il est important que nos pensées soient sous l'influence de la parole de Dieu. Sinon, nous dévions tous. Aucun d'entre nous ne peut se diriger sur ce chemin si nous ne sommes pas imprégnés par cette parole. Lisons donc 2 Timothée 3, voici ce que Paul dit. Et vous savez, comme c'est sa dernière épître, sa dernière lettre, il est près du sacrifice suprême, l'apôtre Paul. Et il veut dire à son disciple des paroles extrêmement urgentes et importantes avant de partir. Il est en prison et lors de son jugement approche et de sa mort aussi. Alors il veut imprimer dans le cœur de Timothée, comme il sera son remplaçant, son successeur. Il faut qu'il comprenne, et comme il est jeune encore, il est là, l'apôtre Paul, du fond de sa prison. Il énonce cette parole et vous allez voir, ces paroles sont extrêmement sérieuses quand nous lisons en français. Nous ne saisissons pas toujours l'importance des mots, mais je vais vous donner le sens des mots grecs après, concernant quelques mots que Paul utilise. Et vous verrez que ce sont des paroles extrêmement percutantes que Paul voulait adresser à Timothée. 2 Timothée 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. » Vous voyez, la première caractéristique, c'est l'égoïsme. Il commence par l'égoïsme. L'égoïsme. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux. » Nous allons revenir sur la définition un peu de ces mots dans le sens grec. C'est très important, très instructif. « Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilège, insensible, implacable, calomniateur, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien, traître, vous vous rendez compte tout ce qu'il dit, impulsif, enflé d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont, et vous voyez par quoi ça se termine? Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que si on se laisse influencer par ces pensées, par ces personnes-là, vous divaguez vous-même, vous déviez. C'est une question de vie ou de mort. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a des choses dont on doit s'éloigner. Il y a des personnes desquelles on doit s'éloigner quand ces personnes ont une mauvaise influence sur nous. Allons plus loin encore. Il en est parmi vous qui s'introduisent parmi eux, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. N'est-ce pas tragique? Apprendre toujours, toujours, sans arriver à connaître la vérité. N'est-ce pas tragique? D'écouter la vérité, on ne comprend rien du tout. On ne comprend rien. On écoute, mais on ne comprend rien. N'est-ce pas une tragédie? Et ces choses arrivent maintenant encore. Ce n'est pas seulement les vieilles dames du temps de Paul. Aujourd'hui encore, ce n'est pas nécessaire d'être vieux ou vieille. Même les jeunes, les moins jeunes, n'importe qui. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même, Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse. De même, ces gens s'opposent à la... À quoi? À la... Vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils ne feront plus de progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Et pour terminer, il y a quelques exhortations personnelles. Pour toi, voyez-vous, maintenant Paul dit à Timothée, il a dressé un tableau général, mais maintenant pour toi, tu as suivi de près mes enseignements, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Quelle parole merveilleuse.
Alléluia.
Son serviteur persécuté, souffrant, rejeté, mais le Seigneur l'a délivré de toutes. Alléluia. Amen. Le Seigneur est près de ceux qui prêchent sa parole dans la vérité. Il ne les abandonne pas. Même si les hommes les abandonnent ou les rejettent. Le Seigneur, jamais, c'est le bon berger. Tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Pas seulement Paul, mais nous, si nous voulons aimer la vérité, suivre la vérité, c'est la conséquence normale. Un chrétien qui n'est pas persécuté à cause de sa foi, il faut se demander s'il est fidèle au Seigneur. Il faut se demander s'il aime vraiment la vérité. Parce que la vérité dérange toujours. La vérité secoue les gens. La vérité fait qu'on vous rejette, qu'on vous calomnie, n'est-ce pas vrai? Paul en était ainsi. Il en sera de vous comme de moi. Il ne faut pas s'en étonner. Mais il y en a qui fuient ces choses. Mais en fuyant ces choses, on fuit la vérité. Et on s'oppose à la vérité. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, voyez-vous, Paul revient encore, toi, reste attaché à ce que tu as appris, donc à cette parole. On ne doit plus rien ajouter, plus rien retrancher. Toi, reste attaché. Et qui est l'objet de ta foi, tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Voyez-vous, la parole de Dieu est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, redresser et éduquer. Voilà le but de la parole. Nous avons vu tout à l'heure que ces vieilles dames écoutaient, apprenaient beaucoup de choses, mais cette parole n'avait aucun effet sur leur vie. Aucun effet. Et malheureusement, dans ces temps de la fin, nous arrivons à ce stade-là, où la parole de Dieu n'a plus d'effet. Non seulement dans la vie de ceux du monde, mais dans la vie des chrétiens. Il y a là quelque chose d'extrêmement sérieux et grave. Cette parole doit être toujours pour nous une parole de Dieu. Et lorsque Dieu nous parle, il ne faut pas seulement l'écouter pour l'écouter, mais l'écouter pour la mettre en pratique. Si nous n'écoutons pas, si nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu nous dit, alors nous nous endurcissons et nous nous égarons loin de la vérité. C'est pourquoi les choses sont extrêmement importantes. Alors nous allons revenir en soulignant quelques mots importants que Paul voulait donner à Timothée. Et le titre de mon message, si vous voulez, c'est un peu ce que chaque chrétien doit absolument connaître sur la fin des temps. Absolument connaître. Vous devez connaître ces vérités. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, sache, sache. Sache, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est le verbe savoir. Il fallait qu'il sache des choses. Il n'était pas encore bien au courant. Et Paul ne voulait pas partir sans lui dire ce qui allait arriver. Il y a un proverbe qui dit, un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Quand nous sommes avertis, alors nous nous tenons sur nos gardes. Nous faisons attention. Mais, ah, ça, il y a un danger là. Mais si on n'est pas averti, on ouvre les yeux, on avance comme ça. Et on va au-devant de grandes difficultés. Alors le premier mot que nous allons souligner, c'est le verbe savoir, sache. Sache. Et le verbe ici, en grec, c'est ginosko. Pardonnez mon grec, je n'ai pas fait du grec, mais c'est ça que ça veut dire à peu près. Et ce mot veut dire ceci, ce verbe, sache. C'est important. Paul lui dit en somme, Timothée, réalise les faits. Sois conscient de ce qui arrive. Réalise. Sois conscient de ce qui arrive et de ce qui va arriver. Une autre traduction dirait, ne sois pas ignorant de certains faits alarmants qui arriveront certainement. Ne sois pas ignorant. Des faits alarmants vont arriver dans le monde et dans l'Église. Des faits alarmants vont arriver. Il faut que tu le saches. Sois donc sur tes gardes. Ces choses arriveront dans le monde que nous le voulions ou pas. Ce sont des choses qui vont arriver parce que c'est un signe des temps de la fin. Et laissez-moi vous dire, nous ne pouvons rien changer de cette situation, ni nos prières, ni vos prières, ni vos jeûnes, ni même une prophétie, ni même une révélation, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des révélations maintenant, et qui disent n'importe quoi, qui sont contraires à la simple prédication de l'Évangile. Si quelqu'un mène une prophétie qui vient contredire la parole de Dieu, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Une vraie prophétie ne vient que confirmer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous entendons de toutes parts, Dieu me montre comme, j'ai une révélation. Ah bon? Confirme-t-elle la parole? Ah, c'est des révélations spéciales. Et qu'on ajoute à la parole de Dieu. Et Paul veut dire à Timothée, sache une chose, Timothée, des choses alarmantes arrivent. Vous savez, un chrétien n'est pas un pessimiste ou un optimiste. Un chrétien est un réaliste. Parce que quand on prêche ces choses-là, certains viennent nous dire « Oh, vous êtes-vous un peu pessimiste ce matin ?» Ou alors d'autres Ils sont trop optimistes. Ils planent complètement. Ils planent complètement. Tout va toujours très bien. Il n'y a jamais rien de mal qui arrivera. On nous dit que tout va toujours très bien. C'est merveilleux. On vit un réveil extraordinaire alors que nous sommes dans l'apostasie. Pourquoi ? Parce que les vérités fondamentales de la parole de Dieu sont galvaudées, sont déformées, sont même rejetées. Dans certains milieux où l'on, soi-disant, pense qu'on vit un réveil, prêchez-leur la saine doctrine, on vous met à la porte tout de suite. On vous met à la porte. Et on dit qu'on vit un réveil. N'est-ce pas une tragédie ? Alors Paul veut dire à Timothée, « Timothée, il faut que tu saches ces choses. Des choses alarmantes vont arriver. Et si tu n'es pas prêt, eh bien, ce sera dangereux pour toi et pour tous ceux qui t'écoutent. Sache, le chrétien n'est pas un optimiste ou un pessimiste, il est un réaliste. On doit être conscient de ces choses qui arrivent. Sache que dans les derniers jours, on va voir ce que le mot « dernier » veut dire. « Dernier jour » en grec « eschato » signifie « les derniers des derniers jours ». Le mot grec ici « dernier » veut dire « les derniers des derniers jours ». Donc, ce que nous vivons maintenant, exactement ce qui se passe maintenant et dans les temps de la fin que nous vivons maintenant. Donc, c'est vraiment la période actuelle qui nous concerne. Les derniers jours, bien sûr, ont commencé avec les apôtres, mais il y a là la pensée des derniers jours. Donc, nous sommes en plein dedans. Il y aura, sache que dans les derniers jours, qu'est-ce qu'il est dit après ? Il y aura des temps difficiles. On va souligner aussi ce mot « difficile », il est très important. En grec, kalépos signifie « traître », des perfides qui manquent à sa parole, déloyal, trahit celui qui lui faisait confiance. On pourrait traduire « il y aura des temps périlleux, dangereux, très dur et violent, démoniaque. » Le mot « difficile », on peut le traduire par « démoniaque », parce que dans l'évangile de Matthieu, il est question, ce même mot est repris lorsque les deux possédés de Gadara, vous vous souvenez, il est dit à un moment donné, c'est Matthieu 28, sauf erreur, où il est dit que Matthieu 8, 28, il est dit, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là, Ils étaient si furieux. Le mot furieux ici est le même mot que difficile avec Timothée. Donc ils étaient si furieux qu'il était dangereux de passer près d'eux. Et quand Paul lui dit il y aura des temps difficiles, il y aura donc des temps dangereux, des temps où l'influence démoniaque sera très forte. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas des endroits ici et dans d'autres pays où on ne peut plus aller, où c'est dangereux, extrêmement dangereux? Et Paul veut dire que on va vivre ces choses-là. Ce sont des temps extrêmement périlleux, dangereux, traîtres. Voyez-vous comme il faut être sur ses gardes. Il nous faut réaliser que nous vivons dans ces temps. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et si nous ne sommes pas préparés à cela, nous ne serons pas prêts pour ce qui nous attend. Amen. C'est donc extrêmement important, des temps difficiles. Moi, j'ai cru qu'on attendait un grand réveil, c'était tout extraordinaire, des choses. Ah bon? En général, ceux qui croient au grand réveil, vous savez pourquoi? Pourquoi ils y croient? Parce qu'ils ont considéré que l'Église a remplacé Israël, et que toutes les bénédictions qui appartiennent à Israël, comme Israël est mis de côté, eh bien, toutes les bénédictions et la grande restauration que Dieu prévoit pour Israël, c'est pour l'Église que ça va se faire. Regardez ça, comme c'est tordu. Israël est toujours là. Israël a désobéi, mais Dieu va restaurer Israël. Et cette restauration sera bientôt glorieuse. C'est vrai qu'ils vont passer par de grandes souffrances, par de grandes tribulations. Mais les bénédictions qui sont la restauration concernant Israël, c'est pour Israël, ce n'est pas pour l'Église. Naturellement, quand vous croyez que l'Église a remplacé Israël, donc toutes les promesses de restauration dans l'Ancien Testament, on les prend toutes pour l'Église. Et c'est pourquoi on arrive à dire, voilà, dans les derniers temps, il va y avoir des choses formidables. Mais ils prennent toutes les promesses concernant Israël, ils les donnent pour l'Église. Et ça, c'est une hérésie. Et c'est comme ça qu'on trompe les gens et les chrétiens. Mais cela ne veut pas dire que, parce qu'on est dans les derniers temps, et qu'on appartient au Seigneur, qu'on ne verra pas de grandes choses. Ceux qui prêchent fidèlement la parole, Dieu confirme sa parole. Amen. Amen. C'est ce que nous voyons. Partout le Seigneur nous envoie.
Amen.
Nous voyons le Seigneur confirmer sa parole par des signes, des prodiges et des miracles.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Et vous le remarquez en général, ceux qui soi-disant prêchent un grand réveil et des choses merveilleuses, vous regardez leurs signes et leurs prodiges. Il n'y a rien de biblique. Ce sont des manifestations psychiques de l'intelligence humaine et de n'importe quoi. Mais il n'y a pas de signe, vraiment, où les aveugles voient, les sourds qui entendent, les paralytiques qui marchent, les démons qui sont choisis. On ne voit rien de tout ça.
C'est vrai.
Et on nous dit qu'on vit un réveil. Alors qu'on voit tout ce qu'il ne faut pas, et qui n'est pas dans la Bible. N'est-ce pas une tragédie? Et on dit que c'est un réveil. Un vrai réveil produit ce que les premiers apôtres ont expérimenté et enseigné. Amen. Sache que dans les derniers jours, qu'est-ce qu'il y aura? Des temps difficiles. Nous allons maintenant nous arrêter sur... Alors, car les hommes, au verset 2, car les hommes seront égoïstes. En grec, philanthos. Vous le remarquez ici, la première caractéristique est cet égoïsme, cette vie égocentrique. C'est là une des caractéristiques du temps de la fin. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui on ne vit pas cela? Non seulement on vit cela, il y en a même qui prêchent l'amour du moi. Un égoïste, un égocentrique, c'est celui qui est amoureux de lui-même. Vous rendez compte ça? Et aujourd'hui, on nous dit que celui qui ne s'aime pas, le péché, c'est ne pas s'aimer soi-même. Il y en a qui vont jusqu'à dire cela. Et c'est au milieu de nous. Et on nous dit que le péché, c'est de ne pas s'aimer soi-même. Et l'apôtre Paul dit que le plus grand des péchés, c'est de s'aimer soi-même. L'apôtre Paul dit exactement le contraire de tous ces nombreux psychologues et psychiatres qui sont là et dont leur message pénètre juste dans notre église, dans nos églises. Paul dit bien, le péché d'égoïsme, c'est cela, c'est le péché par excellence, c'est faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. C'est le fait de vouloir vivre pour soi, de chercher à être soi-même le premier servi. Et c'est là ce que nous vivons aujourd'hui. Quand Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous le remarquez, il a parlé de deux commandements. Mais il y en a aujourd'hui qui en a ajouté un troisième commandement, qui est de s'aimer soi-même. N'avez-vous pas entendu cela? Mais Jésus a parlé de deux commandements. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme pour dire, si tu aimes ton prochain comme tu t'aimes déjà, tu n'auras aucun problème d'aimer ton prochain.
Bah, c'est ça.
Mais aujourd'hui, on entend dire, Si tu veux aimer ton prochain, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Quel mensonge! Et c'est comme cela que l'on s'égare. Et c'est comme cela que on commence à prendre des orientations qui ne sont plus dans le plan de Dieu. Ainsi, être égoïste, c'est être amoureux de soi-même. Le texte veut dire être profondément égoïste. C'est se préoccuper soi-même d'une manière désordonnée et excessive. La Bible avertit que cet état d'esprit sera la préoccupation majeure et caractéristique des derniers jours. On est en plein dedans. On ne pense qu'à soi, qu'au moi. C'est une génération qui cherchera le règne du moi. Le moi est littéralement adoré. Et malheureusement, ça pénètre dans les églises où on essaye de satisfaire les désirs du moi de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça te plairait ceci? Ça te plairait cela? Si ça te plaît, on va te le donner. Et on est en train de nourrir ce moi qui devrait être crucifié et mis de côté. Et c'est en faisant cela, eh bien, nous éloignons les gens du véritable évangile. N'est-ce pas vrai? Égocentrique, vous le remarquez, cette caractéristique est en tête. Ça veut dire que le reste des caractéristiques dépendent de cet égocentrisme. Parce que les gens sont égocentriques, eh bien, il y a tout le reste qui va suivre. Vous voyez? Les petits-enfants qu'il y a derrière, ce que ça produit quand on est égocentrique. Après, il y a l'amour de l'argent. Hein? Quand on ne pense qu'à soi, eh bien, il y a l'amour de l'argent. Ensuite, on est quoi? Fanfaron, orgueilleux, blasphémateur. Et tout cela dépend de cette vie égocentrique. Et vous avez remarqué, vous n'arriverez jamais à satisfaire une personne égoïste. C'est pourquoi les gens cherchent encore et encore. Et quand vous commencez à donner aux gens ce qu'ils veulent, jamais vous n'arriverez à les satisfaire. Ils sont insatisfaits d'abord dans un domaine, mais après c'est fini. C'est comme les enfants. Vous leur donnez ce qu'ils veulent, un petit jouet. Ouais, c'est ça que tu veux. Je voulais ça. Mais tu lui donnes. 5 minutes après, le jouet est dans le... Il faut autre chose. Et il en est de même avec des soi-disant chrétiens auxquels on donne tout ce qu'ils désirent, mais ne sont jamais satisfaits. 5 minutes après, 1 mois après, il leur faut autre chose. Il leur faut d'autres expériences. Il leur faut d'autres conceptions, d'autres philosophies. Il leur faut autre chose. Et vous n'en sortez plus. C'est pourquoi Paul dit attention. Attention, Timothée. Dans les derniers jours, les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Le moi va régner. Non seulement le moi règne, mais aussi on enseignera même d'aimer, de s'aimer soi-même. Alors que Paul dit exactement le contraire. Que c'est le péché par excellence, vivre pour soi. Voyez-vous, on est exactement à l'opposé du véritable évangile. Sache ces choses, il lui dit. Réveille-toi. Sois conscient. Et malheureusement, beaucoup sont comme ces vieilles dames, on entend. Il n'y a rien qui change, on apprend. On attend, on apprend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui est profondément transformé. On est là comme dans un... comme si on planait. C'est pourquoi Paul dit attention. C'est alarmant ce qui se passe. Tu dois réveiller ton monde, car ils vont à la dérive. Réveille-les, secoue-les. Tu dois savoir que des choses terribles arrivent. Sois réaliste. Ce n'est pas le moment de faire plaisir à Pierre ou à Paul. C'est le moment d'être fidèle et de pouvoir dire ce que Dieu dit. Amen. Sache, est-ce que tu sais cela? Et que si quelqu'un vit pour lui-même, cette personne, vous n'arriverez jamais à la satisfaire. Et c'est cette personne-là qui sera la source de tous les problèmes. D'abord, vous lui donnez ce qu'elle veut, et ensuite, eh bien, c'est elle qui va vous faire danser un petit peu. Ah, vous lui avez fait ces 4 caprices. Eh bien, il faut maintenant 10 caprices. Après, il faut 100 caprices. Et c'est l'autre qui va vous faire danser. À force de vouloir faire plaisir à l'un et à l'autre, la personne sera toujours insatisfaite. Et vous ne saurez plus quoi faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Où on va? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dans les derniers temps, les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, concentrés sur leur propre vie. Moi, je fais ce que je veux. Et même dans beaucoup d'églises, quand on vient à l'église, on ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à être béni. Et tout ce qu'il faut pour obéir, faire la volonté de Dieu, se consacrer, ça rentre pas, ça rentre là, ça sort par là. Ça ne nous touche pas. Tout est concentré sur soi. Voyez-vous comme l'esprit du monde est entré dans l'église?
Beaucoup.
Dans le monde, c'est comme cela. Mais est-ce que cela n'a pas pénétré dans l'église? Mais il y a même des livres de pasteurs qui nous enseignent qu'il faut s'aimer soi-même. Et que le péché, c'est un manque d'estime de soi. Regardez où on va, c'est le comble. Et on en est là. Et personne ne bouge. Tout va très bien. C'est merveilleux. Paul n'aurait certainement pas parlé comme cela. C'est pourquoi il dit, Timothée, sache une chose. Réveille-toi. Ne sois pas ignorant de ces choses. Ne cherche pas à plaire à Pierre ou à Paul. Une personne égoïste, vous ne pourrez jamais la satisfaire. Jamais. Donnez-lui tout ce qu'elle veut. Elle en voudra encore. Elle en voudra encore. La personne égoïste ne vit que pour recevoir. C'est pas vrai? Et comment changer cela en vivant non plus pour recevoir, mais pour donner? Et comme je le dis souvent, le verbe agapé, c'est spécialement donner. Et c'est ce que Jésus nous a amené. Il nous demande d'aimer de l'amour agapé, de vivre non pas pour recevoir, mais pour donner. Si nous recevons, c'est toujours en vue de donner. Mais il y en a qui donnent pour recevoir. Ils ont tout mis à l'envers. Tout est calculé. On donne pour recevoir. Mais la parole de Dieu nous dit, reçois pour donner. Ça ne doit pas s'arrêter avec toi. Toi, tu n'es qu'un instrument. Tu reçois, mais toujours pour donner. Mais ça ne pénètre pas dans la tête de certains. Ça ne pénètre pas. On est tellement dans une société égoïste où l'on tourne autour de soi. Et on pense que Dieu doit être là pour faire tous nos caprices. Et qu'il doit faire nos quatre volontés. Et on présente un tel Dieu à notre génération. Venez, il vous bénit, il vous donnera tout ce que tu veux. Ce sera beau, ce sera magnifique. Mais Jésus a dit, vous aurez tout ça, mais avec des persécutions. Mais ça, on n'en parle pas. Mais vu Paul, qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Tu as connu mon enseignement, ma foi. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Mes persécutions, mes souffrances. N'as-tu pas vu tout ce que j'ai souffert à Iconium, à Antioche et partout? Il ne l'a pas passé de la pommade sur le dos. Sache, Timothée, que si tu veux tenir ferme et être fidèle à ton ministère, tu dois être ferme dans cette vérité que les hommes rejetteront dans les derniers temps, et pas seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Et c'est là la plus grande difficulté, le plus grand danger. Quand c'est les autres, de l'extérieur, on fait attention, mais quand c'est à l'intérieur, on ne fait plus attention. Parce qu'il y a le nom de Jésus, il y a la Bible, il y a tout, on s'aime et tout, voyez-vous? On ne sait pas que le plus grand danger est à l'intérieur. On pense qu'on est protégé, mais maintenant vous n'êtes plus protégé. Il n'y a que la vérité qui nous protège.
Amen.
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 Protège la vérité et la vérité te protégera.
Amen.
Il n'est plus question maintenant de dire, c'est merveilleux, ça c'est fini tout ça. Où on ferme les yeux sur la réalité des choses. Vous avez vu comme Paul revient à Timothée, tu connais les saintes écritures depuis ton enfance. Voyez-vous, il voulait lui dire, Timothée, il n'y a que cette parole qui pourra te garder, il faut que tu la serres dans ton cœur, il ne faut pas rajouter quoi que ce soit, il faut être attaché à cela. Timothée, s'il te plaît, fais attention à tout cela, serre cette parole sur ton cœur, afin de ne pas pécher contre ton Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, la Bible, il n'ouvre presque plus. On ne la médite plus. Et quand on l'entend, même à l'église, on entend des versets un peu hors de leur contexte. Si vous ne connaissez pas vraiment votre Bible, vous vous faites avoir aussi. On en est là! On en est là, mes amis! Vous dites, oh là là, mais c'est alarmant! C'est alarmant! C'est ce que Paul voulait dire. Si vous sortez en disant, eh bien, il nous a alarmés ce matin. Eh bien, c'est exactement. Là, au moins, vous avez compris quelque chose. Oui, c'est alarmant. La situation est alarmante. C'est le sens du mot grec. Sache, il y a des choses alarmantes qui sont là. C'est alarmant. Il est plus tard que nous ne le pensons. La situation est plus grave que nous le pensons. Il est temps donc de dire maintenant, Seigneur, c'est fini cet égoïsme dans ma vie chrétienne, où tout le monde doit tourner autour de moi-même pour me bénir, pour me faire ceci, cela. Et vous êtes là, vous passez du temps avec les uns les autres. Ils vous épuisent complètement. Et il n'y a rien qui se passe. Faut toujours être là pour les bénir. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas là pour bénir les autres. Si tu as reçu quelque chose, mon frère, ma soeur, c'est pour la donner, communiquer aux autres ce que tu as reçu. Amen.
Amen.
Tu ne dois pas donner pour recevoir. Tu reçois pour donner, te donner. C'est cela, la vie chrétienne. Non pas une vie centrée sur toi, où tu utilises Dieu pour ton plaisir à toi. Beaucoup se sont convertis à Jésus parce qu'ils ont été déçus du monde. Le monde ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient. Et pourquoi ils se sont convertis? Eh bien, pour que maintenant Jésus donne ce que le monde n'a pas donné. Mais c'est toujours dans le but de recevoir. Voyez-vous? C'est toujours dans le même but. Alors au début, bien souvent, Dieu nous donne dans sa grâce. Quand nous sommes des bébés, on donne un petit peu. Hein, au bébé, beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il faut que ça change. Le bébé doit apprendre à grandir. Et il doit apprendre aussi à donner. À donner. À ne plus vivre pour recevoir, mais à vivre pour donner. Donner. Amen.
Amen.
Si nous avons compris cela, que notre vie chrétienne ne doit pas tourner autour de nous-mêmes, et que si Dieu me bénit, c'est pour que je puisse bénir les autres.
Amen.
Alléluia. Vous serez étonnés de voir ce que Dieu peut faire dans votre vie. Mais nous ne devons jamais mettre cette parole de Dieu de côté. Elle est là comme notre boussole. Elle est là comme notre boussole. Alléluia. Égoïste. L'amour du moi est la racine de tous les péchés mentionnés par Paul. Aujourd'hui, des pasteurs enseignent le manque d'amour pour soi-même comme étant la racine du péché. Regardez-moi ça. Ce n'est pas notre évangile, ça? Exactement le contraire. Le contraire de ce que Paul dit. Vous croyez qu'on peut rester insensible comme ça? Vous devez prendre une position. C'est impossible autrement. Vous ne pouvez pas être d'accord avec Paul et d'accord avec n'importe qui raconte n'importe quoi. Allons un peu plus loin. Juste, on va voir le mot fanfaron maintenant. Souvent, après il est dit ami de l'argent. Bon, fanfaron, orgueilleux, blasphémateur. Voyons ce mot fanfaron. L'argent, bien sûr, l'amour de l'argent. Juste un petit mot en passant. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ne l'oublions pas. Et j'ai noté ici cette pensée. Il est bon de se rappeler qu'un homme peut perdre plus facilement son âme dans la prospérité que dans l'adversité. Ne l'oublions pas. Beaucoup ont perdu leur âme dans la prospérité. Beaucoup. L'homme le plus pauvre dans ce monde est celui qui ne possède que de l'argent. Vous êtes d'accord? Celui qui ne possède que de l'argent, c'est le plus pauvre. Même s'il a le monde entier. Allons, voyons maintenant ce que signifie ce mot fanfaron. C'est un mot important qui veut dire alazon en grec. Il signifie se vanter jusqu'à même mentir afin de se faire valoir soi-même. Regardez ça, un fanfaron. C'est un vantard. Autrement dit, il se vante jusqu'à mentir afin de se faire valoir soi-même. Donc, vous voyez, il essaye de paraître quelque chose qu'il n'est pas. fanfaron. Il veut paraître quelque chose qu'il n'est pas. Donc il trompe les gens. Faire croire que nous possédons certaines qualités que nous n'avons pas ou presque pas. Donc c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il a des qualités alors qu'il ne les a pas ou presque pas. Donc vous voyez, tout est un peu dans le mensonge, il vit dans le mensonge. Ce sont les personnes qui vous font croire que sans eux, rien ne peut se faire. Sans eux, sans elles, rien ne peut se faire. N'est-ce pas tragique ça? Ça, c'est un fanfaron. Il est là, il te fait croire que s'il n'est pas là, si elle n'est pas là, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Elle se place toujours au-dessus des autres. C'est très subtil, mais c'est cela. Ceux qui font beaucoup de discours, mais n'ont pas beaucoup d'actes, ça, ce sont des fanfarons. Beaucoup de discours, mais très peu d'actes. Et vous, par nos paroles, on peut dire, et faire croire beaucoup de choses, mais il n'y a pas les actes qui suivent. Est-ce qu'on ne fanfaronne pas de temps en temps? Est-ce que de temps en temps, on n'essaye pas de paraître quelque chose qu'on n'est pas? Combien nous devons veiller? Amen. Les fanfarons, c'est ça. Voyez-vous, c'est le règne du moi. C'est le moi qui est là, qui est en train de se vanter. Et allons un peu plus loin. Il est dit, on va souligner un autre mot, blasphémateur, rebelle à l'empereur, ingrat. Ingrat, en grec, acharistos, ingrat. Ce qui veut dire sans remerciement, manquer de reconnaissance. Quelqu'un d'ingrat, c'est quelqu'un qui ne dit jamais merci. Pas de remerciement. Manque de reconnaissance. Combien de fois, quand Dieu nous bénit, la reconnaissance est-elle vraiment là? Il n'y en a pas beaucoup, comme il a été mentionné. Sur les 10 guéris, un seul est venu rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Dieu, être reconnaissant. Ingrat, on est dans ce temps-là. Pas de merci. Il y a les chrétiens merci et les chrétiens encore. Quel chrétien êtes-vous? Certains chrétiens, vous les entendez, c'est toujours encore, encore, encore. Vous leur donnez beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses, encore, 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 encore. Tandis que les autres, qui n'ont pas grand-chose, mais ils sont toujours contents avec le peu que vous leur donnez, c'est des chrétiens merci. Ils sont reconnaissants pour tout. Amen.
Amen.
Voilà les chrétiens qui tiendront jusqu'à la fin. Voilà les chrétiens qui iront jusqu'au bout. C'est des chrétiens reconnaissants. Reconnaissants, qui savent dire merci. Peux-tu dire merci à celui ou à celle qui t'a fait du bien? Que de fois nous l'oublions. Oh, mais c'est pas important. Non, c'est très important. Tu apprécies le travail de l'un, de l'autre, le talent de l'un et de l'autre. Eh bien, apprends à dire merci.
Amen.
J'apprécie ce que tu as fait. J'apprécie ce que tu as dit. Cela m'a fait du bien.
Voilà.
Faites-le. C'est ça, un chrétien. Reconnaissant. Mais l'ingrat, lui, vous lui donnez n'importe quoi. Il n'y a rien qui le touche. C'est tout, au contraire. C'est toujours encore, encore, encore. Et voilà pourquoi nous sommes malheureux les uns et les autres. N'est-ce pas vrai? Il est dit encore une pensée insensible. Le mot « insensible » est extrêmement important. Au verset 3, du grec « astorgon » signifie « sans affection naturelle ». Sans affection naturelle, dure. Donc, dans les derniers jours, le chrétien doit se préparer à affronter un déluge de grossièreté. Un déluge de manque de compassion et d'amour. On en est là. Un déluge de rejet de l'esprit de famille. Voilà. Insensible, c'est cela. C'est ce qui vient détruire la cellule familiale. Il n'y a plus de sentiment. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus rien. Et on est en plein dedans, n'est-ce pas? L'apôtre Paul prophétise que Satan causera de grands dommages dans la vie de famille. C'est ce qu'il veut dire. Dans la vie de famille, il y aura des dégâts énormes. Les gens seront insensibles. Ce manque d'affection naturelle fait référence au manque de tendresse naturelle et d'amour, telle que celle manifestée par une mère qui rejette son enfant ou tue son bébé. Insensible, dur. Ou fait référence à un père qui abandonne sa famille. Ou à des enfants qui négligent de prendre soin de leurs parents âgés. Tout cela est englobé dans ce mot insensible. Et on en est là, n'est-ce pas?
Oh oui.
C'est la désintégration. Ah. Il ne faut pas se faire d'illusions. On en est là. Et les choses iront en s'aggravant. Il n'y a que lorsqu'on se convertit vraiment à Jésus-Christ, qu'on met en pratique sa parole et qu'on fait sa volonté, que les choses changeront, mais pas avant. N'est-ce pas vrai? Insensible. Quelle tragédie. Et je termine pour ce matin. Au verset 5, l'apôtre termine sa liste en disant « Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la force ou la puissance. Éloigne-toi de cela. » Donc, ils auront l'apparence de la piété, mais ce qui en fait la force, ils la renieront, la rejetteront. Donc, voyez-vous, dans ces temps de la fin, beaucoup de gens seront religieux, et même dans nos églises, religieux, mais ils en renient ce qui la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas des gens transformés. Ils sont là, ils prient, ils chantent, ils font tout avec nous, mais ils sont toujours les mêmes. C'est une religion qu'ils ont acceptée. C'est un nouveau un style de vie, mais qui ne change pas leur vie en profondeur. Et on est dans ces temps de la fin. Voilà où on en est maintenant. C'est pourquoi, dans beaucoup d'églises où il y a soi-disant un grand réveil, vous grattez un petit peu, les gens sont toujours les mêmes. Le péché est toujours là. On se dit chrétien, on commet encore adultère. On se dit chrétien, on vole encore. On se dit chrétien, on ment encore. On se dit chrétien. Et on se dit chrétien ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. N'est-ce pas tragique cela? Le véritable évangile transforme les gens.
Amen.
L'apôtre Paul disait, si quelqu'un a accepté Christ, il est une
nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà l'évangile comme Paul prêchait.
Amen.
Et voilà l'évangile que Paul veut que Timothée prêche.
Amen.
Ils auront l'apparence de la piété. Et on est en plein dedans. Les gens sont là, ils sont avec vous, ils chantent et tout ça. Mais il n'y a aucun changement. Les mêmes passions sont là. On ne les a pas abandonnées. On a abandonné 90 péchés. Mais on en garde encore quelques-uns. Et on est toujours la même personne. Fondamentalement, il n'y a rien de changé. N'est-ce pas tragique?
Oui.
Et ça, c'est un autre évangile, mes amis. C'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de Paul ou de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant l'apparence de la piété. Une apparence de piété est une pratique superficielle de sa foi, sans changement de vie. Par rapport au péché, par rapport à l'égoïsme, par rapport au péché et au monde, on est toujours les mêmes. Et vous? Rien ne change en profondeur. Et on en est là. On en est là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on considère que le péché, c'est s'égarer comme ça, ne pas pouvoir accomplir, s'accomplir, se réaliser pleinement. Vous voyez, c'est comme ça qu'on présente le péché maintenant. Ah oui, le péché, c'est bon, tu ne peux pas te réaliser pleinement, mais voilà, il faut en Christ, tu peux te réaliser pleinement, tes projets, ta vie peut prendre une nouvelle dimension comme cela. Mais le péché, c'est quoi, d'abord et avant tout? C'est une rébellion contre Dieu. Mais on ne parle jamais que les gens sont des rebelles. Ils partiraient tout de suite. Mais ça, on n'en veut pas. On veut qu'ils restent. Et Et on a au milieu de nous des religieux rebelles. La preuve, c'est que lorsque l'on dit la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Vous avez intérêt à ne pas vous trouver sur leur chemin. Voilà où on en est. Vous dites, mais c'est alarmant ce que vous dites, pasteur. C'est exactement ce que le Seigneur veut que vous réalisiez. Il y a une apparence de la piété. Jésus lui-même a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore, et le mot honorer ici veut dire adore. Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voyez-vous qu'on peut adorer le Seigneur avec un cœur qui est loin de lui? On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu.
Amen.
C'est cela l'apparence de la piété. On ne vit pas ce qu'on dit. On ne vit pas ce qu'on croit. Et on tourne en rond. On a l'impression d'avancer. Mais laissez-moi vous dire, certains ont l'impression d'avancer, mais ils tournent en rond. Alors ils avancent, oui, c'est vrai qu'ils avancent. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tourner en rond. Au bout d'un an, ils sont de nouveau au même point. Ils ne vont pas droit, ils tournent en rond. Il y a une grande différence à avancer tout droit et tourner en rond. Beaucoup avancent, c'est vrai, mais en rond. En rond. Ils en sont toujours au même point. Paul parle de ceux qui professent être chrétiens, paraissent religieux, mais ne manifestent pas la puissance de Dieu pour les sauver du péché, de l'égoïsme et de l'immoralité. Certains croient qu'on peut pratiquer les péchés mentionnés dans les versets 2 à 4 et cependant être sauvé. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu ici quelqu'un qui dit, mais on est sauvé par grâce, comme pour dire, puisqu'on est sauvé par grâce, on peut un peu faire un peu n'importe quoi. On est quand même sauvé. Et je lui ai dit, mon ami, si quelqu'un se dit chrétien, qui est sauvé par grâce et qui vit dans le péché, cette personne n'est pas sauvée. Elle n'a pas du tout la notion biblique de la grâce de Dieu. On est sauvé par grâce. Parce que nous avons réalisé que notre péché a déshonoré Dieu. Si je continue de vivre dans le péché, c'est comme si je recrucifiais le Seigneur. Si je suis sauvé par grâce, cela veut dire que mon péché a crucifié mon maître, mon rédempteur. Comment puis-je continuer de vivre encore dans le péché? Je me repens. J'abandonne tout ce qui te déshonore dans ma vie. La grâce de Dieu nous pousse, comme dit l'épître de Tite, nous pousse à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Voilà ce que la grâce fait. Nous pousse à abandonner l'impiété. Et le mot impiété veut dire toute désobéissance à la parole. Un impie, c'est quelqu'un qui tourne le dos à la parole. On ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur et qu'on tourne le dos à sa parole. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus et que vous n'obéissez pas à sa parole. Ce n'est pas vrai. Vous êtes un menteur. Je suis un menteur. Jésus a dit, Jean 14, 15, celui qui m'aime, c'est celui qui
garde
ma parole. Celui qui aime le plus le Seigneur au milieu de nous, c'est celui qui garde sa parole.
Amen.
Ce n'est pas celui qui dit je t'aime très fort. Bon, c'est bien de le faire. Mais il faut après le prouver. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, tu sais, je t'aime. Ça ne veut rien dire, c'est bien. Ça veut dire quelque chose si dans ton cœur, tu es quelqu'un qui obéit à sa parole. Alors naturellement, ce que tu dis là, porte, touche le cœur du Seigneur. Parce que c'est celui qui m'aime qui garde ma parole. Amen. C'est une foi sans repentance qui ne sauve pas. Voilà l'apparence de la piété, mes amis, dans ces temps de la fin. Les gens croient, mais sans repentance. Sans repentance. Vous entendez maintenant beaucoup parler de repentance dans les églises? Et soi-disant, ils vivent un réveil. Mais voyez-vous, il faut se réveiller avant que ce soit trop tard. L'apôtre Paul, en tout cas, ne parlait pas comme ça, je vais terminer. Pour maintenant, l'apôtre Paul ne parlait pas comme ça. Dans Actes 26, 20, voici ce qu'il faisait partout où il allait. Paul a prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Partout où il allait, il annonçait ce beau message de la repentance et de la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc il fallait que les gens montrent qu'ils sont vraiment convertis en montrant une vie changée. Alléluia. Autrefois, j'étais aveugle, maintenant je vois. Autrefois, j'étais menteur, maintenant je dis la vérité. Autrefois, j'étais un être impur, maintenant je marche dans la lumière, dans la vérité. Alléluia. Autrefois, le mensonge était dans ma bouche, maintenant c'est la vérité. Voilà. Voilà ce que Dieu fait dans une vie. Sache que dans les derniers temps, eh bien, il y aura cette confusion totale. Totale. Que le Seigneur, et à Actes 17, 30, il est dit, Dieu ordonne à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. C'est un ordre. Et pourtant, cet ordre-là, beaucoup de pasteurs ont reçu un contre-ordre à cet ordre-là. Ils ont reçu un contre-ordre par des révélations, par autre je ne sais quoi. Ils n'en parlent plus. De qui tu as reçu ce contre-ordre? Si tu as reçu un contre-ordre, le contre-ordre ne vient pas d'en haut. Le contre-ordre vient d'en bas. C'est l'ennemi qui t'a donné ce contre-ordre. Ah, tu n'en parles pas de la repentance. D'où vient ce contre-ordre? Il vient de l'ennemi de ton âme et de l'ennemi des autres qui veut détruire la foi des chrétiens et qui veut empêcher une multitude d'entrer dans le ciel. D'où as-tu reçu ce contre-ordre pour que tu n'en parles pas? D'où as-tu reçu cela? Cela ne vient pas de Dieu. Je dis, oh là là, c'est alarmant. Oui, c'est alarmant. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut produire ce matin. Un chrétien n'est pas un optimiste. Un chrétien n'est pas un pessimiste. Il est un réaliste. Voilà la réalité. On ne plaque pas. On est attaché à la parole. C'est pourquoi dans Actes, vous avez vu à la fin, je relis le passage, Hébreux 3:16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, voyez-vous, enseigner, convaincre. Qu'est-ce qu'il y a après? Corriger et instruire, éduquer. Voilà le but de la parole de Dieu. Nous instruire, nous corriger. Est-ce qu'elle peut encore te corriger, la parole? Est-ce que cette parole a encore de l'influence dans ta vie? Est-ce qu'elle a encore de l'influence? Ce que tu as entendu, est-ce que ça a de l'influence? Ou alors, oui, c'est beau, il a bien parlé, il a élevé un peu trop la voix peut-être ce matin, mais voilà, et puis sans plus, et on en reste là. Mes amis, ce n'est pas cela. Est-ce que la parole de Dieu a encore une influence dans ta vie? Si elle en a une, Dieu soit béni, tu es sur le bon chemin. Et si cette parole ne te touche pas, si cette parole te laisse insensible pour continuer comme avant, alors, des jours dangereux, traîtres, perfides sont devant toi. Que le Seigneur nous donne d'écouter sa parole. Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, périlleux, démoniaques. Et nous sommes en plein dans ces temps-là. Ne nous faisons pas d'illusions. C'est le Saint-Esprit qui dit cela. Prenons garde. Rejetons toute cette apparence, toute cette religiosité. Un chrétien a fait tomber son masque. C'est terminé. Étant inconverti, oui, on avait des masques. Maintenant, quand on est chrétien, le masque est tombé. Alléluia. Il n'y a plus de masque. Voici ce que j'étais et voici ce que je suis maintenant. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Voilà ce que le monde a besoin d'entendre.
Amen.
Voilà ce que nous devons vivre. Sache. Sache, Timothée. Ce sont des vérités alarmantes. Aucune prophétie, aucune révélation, aucune prière, aucun jeûne ne peut changer ça. Il y en a qui prient ou qui jeûnent pour changer ces conditions-là. Tu pries en vain et tu jeûnes en vain. Notre prière doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Avec les prophéties de la Bible. Et surtout obéir là où il faut obéir. Et non pas essayer de dire à Dieu, là tu t'es trompé un petit peu, là tu es un peu trop sévère. Là, tu es un peu trop sévère, Dieu. Il faut un peu que tu corriges tout. Qui est-ce qui est trop sévère? C'est nous qui sommes trop durs et qui n'écouterons pas. C'est pas lui qui doit changer, c'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Amen. Faisons-le et nous vivrons quelque chose de merveilleux, de profond. C'est pas parce que nous sommes en temps d'apostasie que nous ne pouvons pas vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur.
Bien sûr.
L'Esprit de Dieu est là. Au contraire, il agira en profondeur. Il changera des vies, transformera des vies, guérira des corps. Des choses merveilleuses.
Amen.
Les aveugles voient encore. Les sourds entendent encore aujourd'hui.
Oui.
Voilà ce que Dieu fait.
Amen.
Si nous voulons des résultats apostoliques, il nous faut une prédication apostolique.
Amen, amen.
Que Dieu bénisse sa parole.
Amen.
Et que nous puissions prendre garde à cette divine parole. Timothée, sache qu'il y aura des temps difficiles, traîtres, périlleux. Beaucoup se dresseront contre la vérité, comme ce Jeannès et Jambres. Ils se dresseront contre la vérité. Et on le vit ces temps-là, n'est-ce pas vrai? Mais soyons fermes, soyez fermes. Que rien ne vous arrête. Le bon berger ne t'abandonnera jamais. Si tu restes près de lui, tu seras bien gardé. Alléluia. Mais ne crains personne d'autre que Dieu et sa parole. Et Dieu sera avec toi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde près de lui.
Amen.
Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Afin que nous soyons vraiment des hommes et des femmes changés, bouleversés par ta parole. Que nous ne soyons plus les mêmes, non pas des gens religieux, Seigneur, mais des vies transformées qui t'honorent et qui sont un témoignage dans ce monde.
Alléluia.
Nous voici, Seigneur.
Oui.
Prends nos vies et façonne-les à ton image. Et que ta parole, surtout, trouve un écho en nous. Un écho. Cette parole de Dieu. Oui, Seigneur, qu'elle trouve un écho en moi. Je vais obéir et te glorifier. Amen.
Amen.
Restons dans la prière.
S'il est vrai que la vérité, la lumière, doit grandir dans nos cœurs, et que nous devons marcher dans la vérité et la lumière, c'est tellement vrai qu'il faut commencer à la maison. Et le Seigneur a une parole à dire pour un couple ici présent où le gouffre entre eux grandit comme de jour en jour. Et le Seigneur te dit, il a été question de masque, je voudrais que chacun de vous fasse tomber son masque et commence à s'approcher de son conjoint tel qu'il est. Apprenez à marcher dans la lumière, la transparence l'un à l'égard de l'autre, à marcher dans la vérité. Apprenez aussi à vous supporter l'un l'autre et qu'aucun de vous ne cherche à dominer l'autre, mais cherche à le servir en s'oubliant lui-même. Et, dit le Seigneur, un nouvel amour naîtra entre vous deux, celui qui découle de la croix.
Amen.
Il vous unira alors comme vous ne l'avez jamais été, et votre couple commencera à me glorifier. Et vous serez alors étonnés de ce que je peux faire au travers d'un couple uni.
Amen.
Seigneur, bénis ce couple.
Amen, oui, Seigneur.
Mets en eux un esprit bien dissimulé.
Amen.
Que chacun fasse tomber son masque.
Gloire à ton
Seigneur. Qu'ils arrêtent de jouer à cache-cache.
Alléluia.
Seigneur, l'un avec l'autre.
Oui.
Et de se faire passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas ou qu'ils ne sont pas. Alléluia, Seigneur.
Amen.
Toi, tu vois, nous sommes devant toi comme un livre ouvert. Tu sais tout, tu vois tout. Nous ne pouvons rien te cacher. Alors, Seigneur, autant dire, viens me changer, Seigneur. Viens me transformer. Je ne veux pas rester hypocrite, mensongère, mais je veux vivre dans la vérité et la lumière devant ta face, Seigneur.
Amen.
Amen. Une autre parole pour quelqu'un ici, que le Seigneur m'a montré qu'il y avait quelqu'un qui souffre de persécution par sa propre famille. Alors là, le Seigneur vient en t'encourager. Toi qui souffres terriblement d'être persécuté par ceux que tu aimes, je suis pour toi un rocher, dit le Seigneur. Et c'est moi l'asile de ton cœur, où tu peux constamment te réfugier, te retirer. C'est moi qui te protège de la main de tes persécuteurs, de ceux qui agissent violemment contre toi. Je suis pour toi un puissant refuge. Quand tu te sens comme sans force, rappelle-toi que je suis tout près de toi. et que tu es blotti dans ma forte main, et que les vents contraires qui soufflent contre toi ne peuvent t'atteindre. Ma main te sert de bouclier contre tes adversaires. Et toi, efforce-toi simplement de leur pardonner et de purifier ton cœur de toute amertume. Seigneur, quand ta lumière vient dans notre cœur, eh bien, Seigneur, nous voulons l'accepter.
Amen.
C'est moi la personne là, c'est moi, Seigneur. Et commencer à obéir. Ne soyons pas, s'il nous arrive d'être hypocrites devant les hommes, nous ne pourrons pas jouer à ce jeu-là devant le Seigneur.
Amen.
Parce que lui, il voit ce qui est caché derrière le masque.
Amen.
De notre hypocrisie. Alors soyons vrais, marchons dans la lumière, dans la vérité, à l'égard de notre plus proche, de nos plus proches, notre conjoint, nos enfants, nos familles, à l'égard de nos frères et sœurs dans l'Église aussi. Soyons vrais, marchons dans la vérité et la lumière, et nous honorerons notre Seigneur.
Amen.
N'est-ce pas le désir de chacun de nos cœurs?
Alléluia.
Je pense que oui. Levons-nous un tout petit moment et bénissons le nom du Seigneur. Disons-lui merci pour ce qu'il vient de nous dire.
Amen.
Ô Seigneur,
que chacun puisse répondre à ce que Dieu lui
a dit et montré.
Le Seigneur t'a parlé. Obéis. Ne pense pas s'il a parlé à quelqu'un d'autre. Pense à toi-même maintenant. Commence par toi. Seigneur, je veux changer dans ta domaine. Je veux te glorifier. Je veux faire ta volonté. Je veux cesser de tourner autour de moi-même. Je veux mettre de côté cet égoïsme. Seigneur, qui veut toujours recevoir des autres sans jamais donner. Seigneur, j'abandonne ce côté égoïste, égocentrique. Ce moi qui veut dominer, régner. Seigneur, j'abandonne tout cela. Pour que tu viennes, toi, régner dans ma vie.
Oui, Seigneur.
Afin que je puisse, Seigneur, me donner aux autres.
C'est vrai.
Et leur donner surtout ta parole qui est la vérité. C'est le plus grand bien, le plus grand don qu'on puisse faire aux autres.
Absolument.
La parole de Dieu. La vérité de Dieu.
Amen.
Ça, c'est le premier don que le Seigneur attend que nous donnions aux autres.
Amen.
La vérité.
Oui.
L'évangile dans sa pureté. L'évangile dans sa puissance, dans son authenticité. Voilà ce que Dieu veut que nous donnions aux autres. Béni sois-tu, Seigneur.
Et Seigneur, quand tu mets le doigt sur une plaie,
Alléluia.
Ce n'est jamais pour détruire ou pour faire du mal.
Merci.
C'est toujours pour guérir.
Amen.
Alors Seigneur, nous voulons accepter ton doigt. Si tu le mets sur une de nos plaies, eh bien Seigneur, puissions-nous avoir l'honnêteté de dire, Seigneur, tiens, voilà ma plaie, je la porte. De toute façon, moi, je ne peux rien en faire. Je ne m'en sors pas. Eh bien, Seigneur, maintenant, viens, Seigneur, je t'invite. Guéris-moi. Change les choses. Change les choses, Seigneur. Nous te donnons carte blanche pour agir comme tu veux. Parce que nous voulons absolument continuer de vivre à ta gloire. C'est notre but suprême. Sois béni. Adoré Seigneur.
Amen.
Amen.
Restons dans le recueillement. Nous allons chanter ce petit chœur pour terminer avant de prendre le repas ensemble. Le numéro 2 de l'après-midi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Que ce soit là notre prière, ressembler à notre Seigneur, qui a tout fait pour plaire à son Père, obéir à sa parole. Il a acheté l'œuvre que le Père lui a confiée. Personne n'a pu le faire dévier du chemin, ni l'ennemi, ni le monde, ni ses amis, personne. Il a acheté l'œuvre que le Père lui avait confiée. Il a pu dire à la fin, tout est accompli. Que nous puissions encore dire, Seigneur, me voici, je veux tout faire. Tout ce que tu attends de moi, et je veux te ressembler. Tu es mon modèle, tu es mon exemple.
Amen.
Béni sois-tu, Seigneur.
Jésus. de plus grande gloire que de suivre Jésus. Puissions-nous tous être ses disciples. Il n'y a pas de plus grande gloire dans ce monde. Suivons-le, suivons-le. Laissons-le nous transformer. C'est la plus belle des choses dans ce monde. Ne nous séduisons pas nous-mêmes par de faux raisonnements.